Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Ce soir, dans La Rose des Vents, une chronique spéciale pour souligner ce mardi 3 mai, qui est la journée mondiale de la liberté de presse, et l'occasion de parler des enjeux de la liberté d'expression et de l'information, bien sûr, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Nous en avions déjà un aperçu la semaine dernière avec le Burundi. Alors, Daniel, dans quel contexte est née cette journée mondiale de la liberté de presse ?
Eh bien, il y a 250 ans, en 1766, la Suède et la Finlande adoptaient la première loi relative au droit à l'information qui stipulait le droit d'imprimer et de publier. Cette loi représente un tournant majeur car elle permet de rendre publique l'information. Dans cette perspective, les citoyens doivent avoir le droit de s'exprimer sans interférence de l'État et toute information détenue par l'État devrait être à la disposition des citoyens.
Alors cette loi est à l'origine des fondements de l'histoire de liberté de presse.
Eh bien oui, elle a inspiré et continue d'inspirer les États soucieux donc de favoriser la liberté d'expression et de pensée. Et c'est dans ce contexte qu'est né en 1991 des journalistes africains, victimes donc d'indemnisation, d'emprisonnement et de censure, se sont réunis donc du 29 avril au 3 mai en Namibie à Windhoek, et dans le cadre donc d'un séminaire sur le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Et à l'issue de ce séminaire organisé par l'UNESCO est née la déclaration de Windhoek, suivant laquelle la liberté de presse repose sur la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette déclaration est à l'origine de la reconnaissance de la Journée mondiale de la liberté de presse par les Nations Unies, célébrée mondialement donc depuis le 3 mai 1993.
Oui, toute une grande histoire. Alors ça, c'était pour l'origine. Et quels sont les buts de cette Journée mondiale aujourd'hui ?
Alors chaque année, le 3 mai est célébré dans le monde entier et vise à encourager et développer des initiatives en faveur de la liberté de la presse, évaluer l'état de la liberté de la presse à travers le monde et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Mais c'est aussi l'occasion pour les acteurs concernés de rappeler que la liberté de presse est un droit qu'il faut sans cesse protéger et renforcer. Un reportage de Reporters sans frontières 2015 souligne que dans le monde, les conditions de travail des journalistes se sont dégradées en 2014 et que cette année 2014 affiche une nette régression, notamment concernant la liberté de l'information. Ce qui est assez gênant, c'est qu'on se rend compte qu'au lieu d'évoluer au XXIe siècle, on fait plutôt une forme de régression en termes de conflits, de menaces d'acteurs non étatiques, et les exactions commises sont de plus en plus violentes à l'endroit des journalistes. Dans des dizaines de pays à travers le monde, des publications sont donc censurées, condamnées, suspendues, ou tout simplement n'ont plus le droit de paraître. Alors que des journalistes, des rédacteurs en chef et des éditeurs sont harcelés, attaqués, détenus, voire même tués.
Alors effectivement, toute une question relativement compliquée. Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Etter. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la Fondation Hirondelle. Alors je vous voyais hocher de la tête tout à l'heure, c'est une question plutôt compliquée qu'abordait Daniel.
Oui, compliqué, bien sûr. Il faut se rendre compte que la liberté de la presse est quelque chose qui est un peu une évidence, je dirais, chez nous, en Occident, mais ce n'est pas universel. Et au niveau mondial, c'est une exception. Là, nous rejoignons quelque chose qui est vrai pas seulement pour la liberté de la presse, mais pour beaucoup de droits humains que nous considérons, mettons, en Suisse, en France, en Europe, aux États-Unis, comme universels. Nous les affirmons universels, mais ils ne le sont pas. Et à mon avis, l'erreur que nous faisons, c'est que nous les décrétons universels sans avoir consulté les autres. Et du coup, les autres ne sont souvent pas d'accord que nous ayons décrété ce qui est universel et ce qui ne l'est pas.
Ouais, toujours cette question de qui décide quoi. Jean-Marie Etter, vous êtes donc le directeur général de la Fondation Hirondelle, qui est une organisation non gouvernementale suisse de journalistes et de professionnels de l'action humanitaire. Fondée en 1995, elle crée ou soutient des médias d'information généralistes, indépendants et citoyens dans des zones de guerre des situations de crise endémique ou des situations de post-conflit. On vous lisait récemment dans un article du Temps, Jean-Marie Etter, c'était en janvier 2015, et on nous disait que notre conception occidentale de la liberté de presse a du droit à l'information est minoritaire dans... Est-ce qu'elle est minoritaire finalement dans le monde ? En quoi ce modèle est minoritaire ?
Alors, il est minoritaire parce que, si vous voulez, la liberté de la presse repose, comme on vient de le dire, sur des droits universels et sur, mettons de façon plus récente que l'évocation que vous venez de faire, puisque vous remontez à ce qui en Europe a été le début de la liberté de la presse. Mais de façon plus récente, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le fondement est là. Qui dit donc, qui stipule la liberté d'opinion et d'expression. Là, nous sommes dans la liberté d'expression, qui dit quoi ? C'est très simple. Chaque individu, donc c'est individuel, a droit à la liberté d'expression, ce qui signifie le droit de chercher, de recevoir et de répandre l'information et les idées, les deux vont ensemble, sans considération de frontières, très important, sans considération de frontières, par quelque moyen d'expression que ce soit. Fin de citation. Et voilà la déclaration. C'est donc un droit de chaque individu, un droit individuel. Et c'est là-dessus que repose la liberté de la presse. La liberté de la presse n'est pas la liberté des journalistes parce qu'elle sortirait de je ne sais où. La liberté de la presse ne procède que de la liberté des gens à être informés sans considération de frontières ou de moyens.
Pour rebondir en fait sur cette capacité justement à exercer ce droit, des journalistes africains se sont réunis à Abidjan en 1995. Ils ont participé donc à un colloque pour évaluer justement les enjeux de la presse, l'état de la liberté de la presse. Quel est votre regard de manière générale sur justement cette expression et cette liberté de la presse dans certains pays d'Afrique, notamment en Afrique subsaharienne?
Alors écoutez, je dirais que les situations sont assez différentes. Et encore une fois, c'est lié. Nous sommes dans des droits liés, c'est-à-dire que la liberté de la presse n'est pas indissociable des autres libertés et des autres droits. Donc vous êtes dans un ensemble. Et vous allez vous retrouver, surtout en Afrique de l'Est, je dirais, l'Érythrée, c'est le fond du classement, c'est le droit d'emprisonner, de tuer, que ce soit des journalistes ou des autres, enfin peu importe, tout le monde y passe, c'est le plus mauvais élève de la classe, si je peux dire, dans
le bas seuil.
Et ensuite vous avez l'Éthiopie, le Soudan de Bachir, le Soudan du Sud. Ce sont des pays qui sont, c'est l'Afrique de l'Est, et là ce sont des pays qui sont, de ce point de vue-là comme des autres, vraiment des liberticides. Ensuite, vous avez des pays en Afrique centrale qui n'ont pas une véritable tradition de liberté publique, je dirais. Et là, des situations aussi différentes quand même. Le Burundi, vous en parliez, je ne vais pas y revenir, vous en avez parlé lors d'une autre émission, mais c'est épouvantable. Le Rwanda, c'est évidemment un pays où il n'y a aucune liberté de la presse, mettons, pour parler de celle-là.
Le Congo, peut-être ?
Alors, la RDC est un cas... Ils sont très mal classés par Reporters sans frontières. C'est un cas un peu particulier quand même, dans la mesure où vous avez des exceptions à la non-liberté. Voilà.
Et si on remonte vers l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire...
Alors là, évidemment, vous avez des pays magnifiques. Je dirais magnifiques parce que...
En termes de liberté d'expression,
oui,
donc.
Il faut de nouveau faire la relation, si vous voulez, entre une situation globale, démocratique, entre guillemets, et la liberté de la presse. Et là, vous avez le Sénégal, la Guinée est bien placée. Vous avez des pays qui sont vraiment où c'est assez bien.
Alors là, Jean-Marie Etter, on voit plusieurs pays qui sont plus ou moins bien. Quel est le but de la Fondation Hirondelle ? Est-ce que vous agissez dans tous les pays, même s'ils vont bien, ou seulement ceux où c'est la catastrophe ?
Non, nous agissons là où nous pouvons être utiles et où nous estimons qu'en tant que journaliste, notre organisation est la seule qui puisse apporter véritablement une réponse adéquate. Je dirais que pour faire très simple que nos caractéristiques, c'est que nous agissons en tant que diffuseurs, donc nous diffusons de l'information. Nous n'aidons pas seulement d'autres à le faire, nous le faisons nous-mêmes. d'une part. D'autre part, nous agissons sur la durée. Nous estimons qu'agir sur un ou deux mois ou une année, c'est pas, si vous voulez, c'est justement réveiller le goût des gens à être informés. Ensuite, vous partez et c'est retour à une frustration encore plus forte. Donc, nous agissons sur la durée, nous agissons en tant que diffuseurs et nous essayons de laisser des institutions solides sur place.
Alors, qu'on comprenne bien, vous aidez à mettre des personnes qui savent transmettre l'information ?
Oui.
Est-ce que vous formez aussi des gens sur place pour que le flambeau puisse être pris ?
Oui. La formation, si vous voulez, alors peut-être une caractéristique, je ne crois pas à la formation.
Pourquoi ?
Ah, voilà. Merci. Parce que la formation, quand on vient, si vous voulez, que ce soit ici, hein, que ce soit en Suisse ou que ce soit dans les pays où nous travaillons, c'est la même chose. Si vous venez et puis vous expliquez quelque chose à des gens qui sont très curieux pendant une semaine et puis vous repartez, mais qu'ils ne sont pas dans des conditions où ils peuvent utiliser ce que vous leur avez donné, de nouveau, vous ne faites rien d'autre que créer une frustration. Donc, la formation qui marche, c'est de, à l'intérieur d'une institution, soit celle que vous créez, soit une institution où vous êtes reçu et accueilli, de travailler pendant des années et des années, en termes de journalisme, tout simplement en venant après l'émission auprès du journaliste, de l'animateur, allez, on réécoute, on reprend. Qu'est-ce que t'as fait bien, qu'est-ce que t'as pas bien fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, et le lendemain matin, on recommence, et le jour d'après, on recommence, et vous faites ça tous les jours. Tous les jours.
Mais est-ce que vous ne pensez
pas, les gens, pas autrement.
Que c'est prétentieux de la part de l'Occident, justement, de proposer des modèles dans certains pays en termes d'apprentissage aux outils, je veux dire, radiophoniques si. Et ça rejoint finalement la discussion que nous avons en fait au début de cet entretien, à savoir est-ce que ce n'est pas un luxe de l'Occident de vouloir imposer une manière de penser et de concevoir en fait cette liberté de l'information ?
Alors, oui et non. Il y a des choses universelles. La bonnette de votre micro est verte. Que l'on soit soi-même jaune, noir ou blanc, on constate la même chose, la bonnette de votre micro est verte. Et là-dessus, nous serons tous d'accord. En revanche, à partir du moment où on va interpréter cette couleur, si je suis musulman pratiquant, je vais peut-être y voir quelque chose de significatif que vous ne verrez pas du tout. Puisque ça ne vous dit rien de particulier qu'elle soit verte ou rouge. Eh bien, c'est à partir de toutes ces déclinaisons-là que l'on va remonter, d'une part, sur le rythme d'un récit, la manière de rendre compte de la réalité, et d'autre part, sur la manière dont on voit la réalité. Et ça, c'est quelque chose que vous devez discuter et où nous, occidentaux, ne devons pas imposer nos critères et nos valeurs. En revanche, il est indispensable d'insister sur le fait qu'il y a des choses universelles, de les identifier et de ne pas se faire dire au nom de la différence culturelle qu'on a le droit de tuer, etc., etc., etc.
Absolument. Mais si on prend le cas de la Fondation Hirondelle et de différentes antennes qui existent dans différents pays d'Afrique subsaharienne, est-ce que vous ne pensez pas que finalement les médias d'information se substituent finalement à ce que l'État devrait faire ? Est-ce que ça pose un problème de manière générale au niveau éthique ?
Non. L'État devrait rendre accessible à tout public l'information qui concerne ce public à laquelle ce public a droit, que ce soit dans n'importe quel pays. Ce n'est pas le cas en Afrique, évidemment, dans la plupart des pays, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas formalisée en tant que telle, la plupart du temps. Mais l'État ne devrait pas se substituer aux journalistes qui, justement, de manière indépendante, doit avoir un regard critique sur le fonctionnement de l'État. Le journaliste doit demander des comptes au ministre, fût-il en Érythrée, au Congo ou ailleurs.
Jean-Marie Etter, aujourd'hui, on l'a dit, on est le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la Fondation Hirondelle ?
Écoutez, c'est...
Est-ce que c'est symbolique, finalement ?
C'est une journée importante. C'est une journée importante parce qu'elle nous permet de rappeler que les risques que nous courons en tant que journalistes en Europe... Mettons, en tant que journaliste en Suisse, si je fais une très très grosse bêtise, le pire que je risque, c'est, je crois, 3 mois de prison. Et normalement, avec sursis, il faut vraiment que j'ai étranglé l'ensemble du Conseil fédéral pour passer en prison, quoi. Tandis que si je travaille au Congo ou dans beaucoup d'autres pays africains, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, je risque ma vie. Et la plupart dans nos équipes de la Fondation Hirondelle, vous avez beaucoup de journalistes qui courent des risques sur leur intégrité physique et parfois sur leur vie. Nous avons eu 2 journalistes qui ont été assassinés, nous avons eu des journalistes qui ont été extrêmement violentés. Et ces gens courent des risques énormes, individuels. Et il n'y a rien à voir entre ce qu'ils risquent et leurs conditions financières, la réalité dans laquelle ils travaillent et la nôtre. Et pour moi, la journée, le 3 mai, c'est l'occasion de rappeler ça d'abord.
Et quelle importance est-ce que vous accordez finalement aux petits médias comme Radio Django qui sont en Suisse? Est-ce que ça permet une visibilité finalement de l'invisible dans notre société lausannoise?
Évidemment, je crois que la radio, si vous voulez, il y a différents niveaux de proximité. Je crois que on perd avec les réseaux sociaux, avec le net, la notion de forum national, de forum roman, qui est importante, qui est essentielle. Il est essentiel qu'il y ait un endroit collectif au niveau d'une région, d'un pays. Mais il est tout aussi essentiel qu'au niveau de groupes cohérents à l'intérieur de cette société, il y ait un lien social spécifique qui puisse se créer. Et c'est ce que vous faites.
Merci beaucoup Jean-Marie Etter d'être venu nous parler de cette liberté d'expression aujourd'hui et d'avoir fait avec nous ce tour d'horizon de la liberté de presse dans le monde. On le soulignera encore qui n'est pas encore gagné.
Merci à vous.
On vous souhaite plein de courage pour la suite et ainsi qu'à votre fondation que vous dirigez, la fondation Hirondelle. Et puis Daniel, encore, la liberté de la presse et d'accès à l'information reste essentielle au développement des démocraties. On le remarquait tout au long de cette interview.
Et oui, et puis depuis maintenant plusieurs années, plus de 100 célébrations nationales ont lieu chaque année pour commémorer cette journée. Et l'UNESCO, en fait, qui mène cette célébration, identifie un thème global. Et cette année, le prix du meilleur journaliste sera mis à Helsinki. Merci.
Voilà, merci beaucoup Daniel pour la préparation de ce sujet, un sujet à réécouter à volonté et à diffuser depuis notre site www.django.fm.
Run, run, run. secte apocalyptique au dessin funeste. Assassin jusqu'au bouddhiste, imbécile que rien n'arrête. Égorgeur extrémiste avec la haine qui les habite. Autour de nous qui cohabitent, we are to fight it.
Laissez-nous parler, oui, c'est le thème de cette journée de la liberté de la presse et d'expression. Nous sommes effectivement le 3 mai.